Alors, bonjour à tous. Alors, l'enseignement de ce matin se veut un avant-goût de ce que je vous offre pour cet automne dans une série de 8 rencontres sur le livre des Proverbes que nous allons étudier sur une base thématique. Alors, il y a dans le bulletin de ce matin, il y en avait un aussi dimanche dernier, un feuillet d'inscription. Je vous invite à le compléter si ça vous intéresse et à me le remettre ou à le remettre à mon épouse qui est près de la console de son en arrière. Aujourd'hui, dimanche prochain, je serai à l'Assemblée chrétienne de Grand-Mère, donc profitez-en aujourd'hui pour manifester votre intérêt, si intérêt il y a. Alors, je vais faire mon premier test, si ça fonctionne. Paraméiologie. Selon le grand dictionnaire de l'Office de la langue française, c'est l'étude ou l'explication des proverbes. Alors, on va commencer ce matin avec une étude qui ne sera pas reprise dans le cadre de ce que nous allons faire cet automne, ce que nous allons voir cet automne. C'est une étude que j'ai intitulée pompeusement « Quelques aspects de l'amitié selon le livre des Proverbes ». Quelques aspects, parce que le livre des Proverbes n'aborde pas de façon exhaustive et complète tout ce qu'on pourrait dire sur l'amitié. Alors, il y a beaucoup de matière, comme vous pouvez le voir, de ce que je vais vous proposer ce matin. Et ma plus grande crainte, c'est de manquer de temps et de ne pas voir tout ce que je voudrais vous partager sur ce thème de l'amitié. En 1937, le livre, l'essai le plus populaire aux États-Unis, était ce livre de Dale Carnegie qui a été traduit dans près d'une quarantaine de langues que vous avez peut-être lues, qu'on vous a peut-être recommandées, et c'était « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Le livre des Proverbes est, à mon avis, un excellent manuel pour réfléchir à nos relations interpersonnelles. C'est un livre qui a été inspiré par Dieu. Et dans le livre des Proverbes, Dieu nous enseigne la base de ce que nous devons savoir sur les rapports humains. Rapports qu'on peut avoir avec notre conjoint, notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, des connaissances, comme on pourrait dire. Et si on connaît, si on comprend, si on met en pratique la sagesse de Dieu telle qu'elle se révèle dans le livre des Proverbes, je pense qu'on va améliorer nos relations interpersonnelles, nos habiletés interpersonnelles. Alors, on a tous à composer à l'occasion avec des personnes difficiles. On a tous à composer avec des gens d'humeur instable, de personnalité instable. Et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et il y a des cours qui se donnent, qui nous apprennent comment gérer les personnalités difficiles. Voilà pourquoi étudier le livre des Proverbes sur ce qu'il a à nous dire à propos de l'amitié, c'est certainement une bonne façon d'avoir une base solide pour nos relations interpersonnelles. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que le livre des Proverbes nous enseigne que un ami, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui nous aime. Il y a dans le Nouveau Testament, en grec, ces trois mots-là, les mots « philos »,« philia » et « philéo », qu'on va voir un petit peu plus tard, dans quelques instants. Ces trois mots-là sont utilisés pour exprimer un sentiment d'amitié très fort, qui s'exprime par des gestes d'affection. Vous vous rappelez sans doute dans l'Évangile de Jean, un jour, Marthe et Marie font dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade », en parlant de Lazare. Jean chapitre 1, verset 3. Et un peu plus tard, Jésus apprend que Lazare était mort et Jésus est chagriné par la mort de Lazare et il pleure. Et qu'est-ce que les Juifs disent? Ils disent, voici comment il, Jésus, l'aimait. Alors, dans les deux cas, Jean utilise ce verbe « philéo » qui nous dit, selon le sens grec, bien, « philéo », ça signifie éprouver un sentiment d'affection profonde pour une autre personne, se rapporte à l'amitié, veut dire aimer d'amitié, désigne l'affection, l'affinité ou l'amour. Voilà l'amitié qui liait Jésus à Lazare. Jésus appelle même ses disciples ses amis. Et il parle à propos de Lazare en disant « notre ami » dans Jean chapitre 11, verset 11. Et dans tous ces cas, le verbe qui est utilisé, le mot qui est utilisé, le nom qui est utilisé, c'est le mot « philos » qui réfère à un être cher pour qui on a de l'affection. L'apôtre Jacques, lui, nous parle de l'amitié du monde qui est inimitié contre Dieu. Et il utilise le verbe, le nom grec « philia », qui est un sentiment d'affection et d'attachement. Donc, Jacques nous dit, si vous êtes attaché au monde, eh bien, vous allez être en inimitié avec Dieu. Dans Romains, on parle de l'amour fraternel. On en parle aussi dans Thessaloniciens. Et c'est la traduction française du mot « Philadelphia ». Philadelphia, comme vous le voyez, est composé de deux mots, « philia » et « adelphia ». Alors, l'amour fraternel. Alors, quand on dit la ville de Philadelphie, on peut littéralement dire, selon l'étymologie, c'est la ville de l'amour fraternel. Il est possible de connaître beaucoup de monde, d'être entouré de soi-disant amis, d'être chum avec X, Y, Z, mais de ne pas avoir de véritables amis. Le livre des Proverbes établit clairement que la véritable amitié est basée sur l'amour, parce que seul l'amour permet à des amis de surmonter les épreuves qui ne manqueront pas de mettre leur amitié à l'épreuve. Un proverbe québécois dit « L'amitié, c'est de l'amour en habit de semaine. » Et il y a un proverbe qui dit « Un véritable ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. » Les vrais amis sont peu nombreux. On les compte souvent sur les doigts d'une main. Ce sont ceux qui, lorsque les difficultés surviennent, se comportent comme des frères. On peut penser à l'amitié de David et Jonathan dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de Samuel. C'est une belle illustration de la véritable amitié. En réalité, Jonathan, qui était le fils héritier de Saül, a protégé et averti David et il fut un ami inconditionnel de David, même si David était en quelque sorte appelé à régner à sa place à Jonathan. Et quand Jonathan est décédé, David a dit, « Mon cœur souffre à cause de toi, Jonathan, mon frère, mon meilleur ami. Ton amitié pour moi était merveilleuse. » Il y a beaucoup de gens qui sont des amis des beaux jours. Mais quand ça va moins bien, eh bien, il se déguise en courant d'air. Il y a un proverbe qui nous dit « Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. » Ce qui est intéressant dans ce proverbe-là, c'est qu'on voit que dans le deuxième vers, « Mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère », on insiste sur la qualité de l'amitié, alors que le premier vers parle de la quantité des camarades nombreux. Alors, première phrase, c'est la quantité. La deuxième phrase, c'est la qualité. Alors, le proverbe insiste que qualité vaut mieux que quantité. Et vous savez, on est à l'heure des réseaux sociaux. Et c'est de bon ton d'avoir une foule d'amis. Et le nombre d'amis qu'on peut avoir sur Facebook, eh bien, selon certains, c'est un indice de notre popularité. Mais cette profusion d'amis-là peut être trompeuse. Elle ne dit rien sur les intentions de ceux qui se présentent comme nos amis. Il y a peut-être des rivalités, des jalousies. On ne connaît pas leur motivation. Nos vrais amis, ce ne sont pas ceux qui sont affichés sur notre page Facebook. Comme je l'ai dit, se comptent généralement sur les doigts d'une main. Ce sont ceux qui, dans le malheur ou l'adversité, vont se révéler des frères. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'un ami se choisit avec soin. Lorsqu'on lit dans Proverbes chapitre 12 au verset 26, nous voyons ce verset. Le juste est un guide pour son compagnon. Dans la Nouvelle Bible Second, version d'étude, il y a une note en bas de page qui dit « Texte douteux, sens incertain ». Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Alors, je suis allé voir dans des versions en anglais pour voir comment on traduisait cette version. Alors, vous voyez qu'en anglais, c'est passablement différent la façon dont on rend ce proverbe, chapitre 12, verset 26, dans la nouvelle version King James et dans la nouvelle version internationale. Donc, avec l'aide de mon professeur d'anglais, M. Bridgman, j'ai essayé de faire une traduction française et il m'a dit que j'avais bien réussi. Alors, si on prend les versions anglaises et qu'on les ramène en français, voici ce qu'on lit. « Le juste devrait choisir ses amis avec soin, car la voie du méchant les amène à s'égarer. Un homme juste est prudent en amitié, mais la voie du méchant les amène à s'égarer. » Celui qui se fait trop facilement des amis sans les trier sur le volet risque de causer sa propre ruine. Il faut choisir judicieusement ses amis parce qu'un véritable ami est plus précieux qu'un frère. Et il me semble que tout croyant devrait prendre au sérieux ces versets dans le livre des Psaumes lorsque le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Alors, vous voyez, il y a une gradation ici. Hein? On commence par marcher, on s'arrête et on s'assoit sur le banc des moqueurs. Et la même idée est reprise dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, lorsque Paul dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, qu'est-ce qui peut s'unir à ce qui s'oppose à sa loi, etc., etc. » Donc, ces exhortations à choisir soigneusement nos amis se reflètent également dans d'autres passages des Écritures. Il y a même un proverbe qui nous dit qu'il est important que les enfants de Dieu soient particulièrement prudents dans le choix de leurs amis, parce que qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Raison de plus, donc, pour être vigilant dans le choix de nos amis. Parce que, il faut se l'avouer, on se laisse influencer par les gens que l'on fréquente. On se laisse influencer soit pour le bien, soit pour le mal. Sachant qu'on est influencé et influençable, tirons-en des conséquences pratiques pour nos relations avec les autres. On pourrait même dire, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ce que tu deviendras. » On est responsable de nos choix et il serait faux, à mon avis, de minimiser l'influence que les autres exercent sur nous. L'apôtre Paul disait, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » nos fréquentations influencent la formation de notre personnalité et nous avons tendance à ressembler de plus en plus à ceux que nous fréquentons. On passe beaucoup de temps avec des non-croyants, que ce soit au travail ou dans notre vie privée. Et on est exposé au danger d'imiter leur attitude, leur manière d'agir. Il faut se méfier de l'influence que d'autres peuvent avoir sur nous. Plutôt que de prendre leurs mauvaises habitudes, cherchons plutôt à influencer ces personnes. Troisièmement, un ami n'ébruite pas les confidences qui lui sont faites. Celui qui colporte des commérages divulgue les secrets. L'homme loyal sait les tenir cachés, nous dit Proverbes, chapitre 11, verset 13. Divulguer les secrets en se livrant à des bavardages revient à trahir la confidence. L'ami fidèle sait garder les confidences et s'interdit de les divulguer. L'homme sage à qui on se révèle ou qui découvre les squelettes que quelqu'un cache dans son placard va rester bouche cousue. Proverbe 20, chapitre 19 nous dit « Qui colporte des commérages trahit des secrets, n'ait aucun rapport avec le bavard imprudent. » La personne qui bavarde devant toi, devant les autres, elle bavardera contre toi. Il y a dans ces versets une dénonciation des commérages, mais aussi un appel à la vigilance. Ne confions pas nos secrets à ceux qui parlent trop, parce qu'ils seront portés à divulguer des informations qui devraient être gardées confidentielles. Soyons prudents en amitié et faisons attention, car les commérages peuvent gâcher, ruiner, détruire une amitié. Proverbes, chapitre 16, verset 28, nous dit « Le fourbe sème la discorde, et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. » La langue sale qui colporte des nouvelles, des ragots, provoque des conflits entre les amis, les divise, suscite le doute et la méfiance entre eux. Quatrième point que j'aimerais aborder, c'est qu'un ami a le courage d'adresser des reproches. Il y a ce proverbe 27, versets 5 et 6, « Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Des amis se doivent d'être francs et honnêtes l'un envers l'autre. Si l'amour d'une personne est sincère, elle ne craindra pas de faire remarquer une faute à son ami ni de le reprendre. Corriger la faute de quelqu'un est une preuve d'amour. Par contre, s'en abstenir montre une absence d'intérêt à l'égard de l'autre, une absence d'amour. Un ami qui a vos intérêts à cœur peut devoir vous donner un conseil désagréable, mais vous savez que c'est pour votre bien. Un ennemi, en revanche, peut murmurer de douces paroles à votre oreille. Il peut vous dire ce que vous voulez entendre et vous envoyer à la ruine sans scrupule. La franchise n'est pas de l'amour, mais la franchise est une composante essentielle de l'amour. Il y a un proverbe qui nous dit « Une réponse franche est comme une embrassade ». On pense souvent qu'il vaut mieux déformer la vérité pour éviter de blesser quelqu'un. Or, c'est celui qui donne une réponse honnête et franche qui est un véritable ami. Il marque son respect envers l'autre. Aimer de façon authentique, c'est dire la vérité, même si cela implique de faire des reproches. La véritable amitié peut s'avérer coûteuse parce que réprimander quelqu'un, c'est prendre un risque de le blesser. Personne n'aime faire des reproches et encore moins en recevoir. Mais si un ami est dans l'erreur, et que nous lui laissons croire qu'il a raison, nous nous rangeons du côté de ses ennemis, de ceux qui ne veulent pas son bien. Ce proverbe s'adresse aux deux parties engagées dans une relation. Ce proverbe s'adresse aux deux parties, donc. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. La flatterie, ça ne vaut pas cher la livre. Mais corriger quelqu'un, ça, c'est précieux et ça suscite la reconnaissance, nous dit ce proverbe. Adresser une réprimande méritée, c'est un exercice difficile. Mais plus tard, celui qui est sage sera reconnaissant. Recevoir un reproche est difficile à accepter sur le moment parce que notre orgueil en prend un coup. Mais après, en réfléchissant, on se rend compte que la personne qui nous l'a adressé nous aimait vraiment pour nous le dire. Je me rappelle un jour, dans un travail que j'ai eu, il y a une secrétaire qui est venue me voir et qui m'a dit, « Monsieur Poulin, vous avez l'air bête le matin. » Je lui ai dit, « Garde, c'est mon air naturel. » Elle a dit, « On ne sait jamais sur quel pied danser avec vous. On ne sait jamais si vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur. » Elle a eu le tact de me le dire dans mon bureau, la porte fermée. Sur le coup, j'ai trouvé ça assez difficile à recevoir. Mais plus tard, je l'ai remercié pour son courage. Deuxièmement, parce que j'avais réfléchi à son message et je me dis, il faut vraiment qu'elle m'aime beaucoup pour prendre le risque de venir me dire ça. Et après avoir décanté tout ça, je lui avais donné raison et j'ai essayé d'améliorer mon attitude lorsque j'arrivais au bureau, de dire bonjour aux gens, de prendre des nouvelles, même si parfois c'est comme parler de la pluie puis du beau temps. Mais ça brisait la glace, ça rassurait mes employés sur mon humeur générale. Donc, reprendre les autres, c'est pas facile, mais ça s'avère gagnant si, évidemment, on a un véritable ami. Deux attitudes peuvent faire obstacle à la franchise. D'une part, celui qui formule la critique peut manquer de tact, peut manquer de diplomatie, peut manquer de discrétion. Ça peut faire obstacle. Mais les Écritures nous invitent à dire la vérité avec amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans 2 Jean, chapitre 2 Jean, verset 3, « Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accorde la grâce, le pardon et la paix pour que nous vivions dans la vérité et l'amour. » La vérité et l'amour vont toujours ensemble. Et oui, ça prend du tact, ça prend de la diplomatie, ça prend de la discrétion. Et ça, c'est la responsabilité de celui qui adresse le reproche. Dire son reproche, sa critique, avec vérité, mais avec amour. Et celui qui reçoit le commentaire, la critique, alors lui, la difficulté, c'est qu'il doit être enseignable. Et si quelqu'un n'est pas enseignable, c'est difficile de faire des critiques. Il y a un proverbe qui nous dit, « Celui qui déteste le reproche est un idiot. » Le fait qu'une personne soit susceptible, hein, une personne est susceptible, elle est froissée facilement, elle est offensée facilement, elle grimpe dans les rideaux facilement pour un rien, ça rend la franchise difficile. Il faut faire preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit à l'égard d'un ami qui nous critique. Donc, il y a une responsabilité à l'égard de celui qui formule la critique, mais il y a une responsabilité à l'égard de celui à qui elle est destinée. Cinquièmement, le livre des Proverbes nous enseigne qu'un ami, c'est quelqu'un qui cherche à encourager. Il y a dans le livre des Proverbes, chapitre 27, au verset 9, ce proverbe, « L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, et le conseil donné du fond du cœur en douce l'amitié. Il faut se rappeler qu'au moment où ces textes ont été écrits, il y avait en Palestine, et particulièrement dans le couloir du Jourdain, des températures où la moyenne journalière dépassait les 38 degrés Celsius. On a eu un avant-goût de ça cet été, là. Alors, il faisait très chaud. Évidemment, il n'y avait pas les facilités hygiéniques qu'on a aujourd'hui. Les gens ne prenaient pas leur douche matin, midi, soir. Il n'y avait pas d'air climatisé. Alors, les gens masquaient leurs odeurs personnelles à travers de l'huile odorante. Et c'était un geste d'amitié que ça faisait du bien de sentir que quelqu'un était parfumé. Alors, dans ce verset, Salomon nous dit que les avis et les conseils sincères d'un ami sont aussi agréables, plaisants et bienfaisants que le parfum et l'encens. Et il y a dans le Nouveau Testament ces versets où on nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et un autre verset, « Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Et cet autre verset, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Donc, un ami, c'est quelqu'un qui cherche à encourager. Sixièmement, un ami, c'est aussi quelqu'un qui contribue au développement de la personnalité de l'autre. Il y a dans le livre des Proverbes ce verset, « Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. » À l'époque, le fer était le métal le plus dur que l'on connaissait. Et si vous avez déjà été chez un boucher, vous avez certainement vu cet instrument-là que le boucher utilise pour aiguiser ses couteaux. Alors, on appelle ça un fusil en acier pour aiguiser son couteau. Lorsque j'étais jeune, j'ai souvent vu mon père aiguiser la lame de sa scie à chaîne ou la lame de son négoïne avec une lime faite de métal plus dur qui comportait des fines rainures ou des aspérités pour aiguiser. Dieu ne nous a pas appelés à vivre de manière solitaire. C'est par le frottement de nos caractères que les traits de notre personnalité sont modifiés de manière à ce que nous ressemblions davantage au Seigneur Jésus. On n'apprend jamais autant sur nous-mêmes qu'au contact avec les autres. Dans la vision du proverbe, eh bien, il est important que l'homme s'affine au contact de l'homme. Par le frottement, par les relations mutuelles, l'esprit s'affine, le caractère se forme, le comportement se modifie, les valeurs se construisent, mais évidemment, il faut être réceptif aux corrections mutuelles. Dans ce sens-là, il est important d'écouter les critiques. Donc, si le fer aiguise le fer, l'échange d'idées entre des personnes stimule leur réflexion. Le partage de points de vue permet de mieux juger une situation. Ne dit-on pas du choc des idées jaillit la lumière? Le fait de poser des questions aiguise l'intelligence. L'interconnexion amicale affirme la personnalité. En confrontant nos points de vue, on aiguise nos convictions. On adoucit les aspects rugueux de notre personnalité. On adopte des manières moins abrasives et on nuance des idées extrêmes. Des amis qui confrontent leurs idées, leurs opinions, peuvent s'aiguiser mutuellement. Un ami avec qui on peut partager ses luttes, ses difficultés, est sans prix, mais une bonne séance de remue-ménage avec lui est également bienfaisante, car on ressort ravigoté. Échanger ses idées et ses projets est un moyen d'avancer dans la vie au niveau intellectuel, mais aussi spirituel. Septièmement, un ami discerne les bons moments. Alors, il y a un proverbe qui dit « Espace tes visites dans la maison de ton ami. Il en aurait bientôt assez de toi et te prendrait en grippe. » Si des amis passent trop de temps ensemble, ils peuvent finir par se tomber sur les nerfs et mettre en péril leur amitié. L'amitié entraîne une certaine intimité, mais cette intimité ne doit pas se transformer en ingérence. C'est important, hein? Intimité ne doit pas devenir de l'ingérence. Vous avez sans doute entendu parler de l'organisme qui s'appelle Éduc'alcool et dont le slogan est « La modération a bien meilleur goût ». Peut-être avez-vous déjà été excédé par l'intrusion intempestive d'un prochain envahissant, coup de téléphone répété à des heures indues, visite au mauvais moment. Ce proverbe nous invite à avoir le souci lorsqu'on visite quelqu'un, de respecter sa souveraineté. Ne lui imposons pas notre présence de manière exagérée. Préoccupons-nous de savoir si notre présence est opportune ou non. Il suffit parfois de peu, un manque de sagesse ou de prévenance pour que, du plaisir, une relation bascule dans une lassitude pesante. Pour grandir, une plante a besoin d'espace. L'espace vient de l'intimité et de la solitude. Même dans un couple, hommes et femmes doivent respecter le besoin d'intimité et de solitude et ne pas chercher à être constamment ensemble. Il y a un proverbe qui dit « Bénir son prochain à haute voix et de grand matin est réputé comme une malédiction ». L'important ne réside pas seulement dans ce que l'on dit, mais dans le comment, le quand et pourquoi on le dit. Attention aux amis qui font fréquemment et tapageusement votre éloge et qui vous disent « Ah, quel ami précieux tu es! » La véritable amitié ne repose pas sur un tel cinéma, une telle bouffonnerie. Louer ou féliciter son prochain, c'est quelque chose de recommandable. Encore faut-il le faire avec discernement et au bon moment. Faites au mauvais moment, même une bonne action peut être mal reçue. De vrais amis essaient de se dire les choses qui s'imposent au bon moment et de la bonne manière. Nos amis anglophones disent « Say the right thing at the right time in the right way ». Huitièmement, un ami sait témoigner de l'empathie. Alors, il y a ce proverbe qui nous dit « Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour glacial ou verser du vinaigre sur une plaie. » La Bible nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Romains chapitre 12, verset 15. Faire l'inverse, c'est agir à contresens de ce que le cœur humain a besoin. Il peut arriver que, face à la détresse d'un ami, on ne sache pas trop comment réagir. La meilleure attitude, c'est d'essayer de se mettre à sa place et de se demander « Qu'est-ce que je n'aimerais pas que les autres fassent en ce moment de difficulté, de détresse? » Et au pire, mieux vaut ne rien dire, ne rien faire, que de créer de la confusion par une manière d'agir stupide. Parce que l'amitié est une forme d'amour, des amis sont sensibles à leurs émotions et à leurs besoins. Si nos marques d'encouragement sont dénuées de compassion, elles peuvent faire beaucoup de mal. J'arrive déjà à ma conclusion, moi qui croyais manquer de temps. Alors, un véritable ami devrait être une source de stimulation positive. La Bible nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Est-ce que nos amis sont ce type de personnes? Est-ce qu'elles nous encouragent? Est-ce qu'elles nous stimulent à l'amour et à la pratique du bien? Vous savez, on est dans une société où la solitude sévit partout. Ma femme et moi, on va régulièrement marcher et on est toujours étonné de voir le nombre de personnes qui promènent leur chien. Et quand je dis leur chien, là, c'est au pluriel. On se promène, on voit deux puis trois chiens qui sont promenés, puis des fois, on se demande si c'est le chien qui promène le maître ou le maître qui promène le chien, tellement que le chien tire sa laisse. Et on nous apprend que pour combattre la solitude, beaucoup de gens achètent des animaux de compagnie. Il y a beaucoup de gens qui vivent de la solitude, qui se sentent coupés du monde, en marge de la société. Et on a tous besoin d'amis intimes qui nous écoutent, qui se soucient de nous et qui nous offrent leur aide dans les bons et les mauvais moments. Il est préférable d'avoir quelques amis fidèles que des dizaines de relations superficielles. Et il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui ont soif d'une réelle amitié. Demandons à Dieu de nous révéler cela et peut-être qu'on peut relever le défi d'être de véritables amis. Alors, comme j'avais prévu manquer de temps, j'ai fait imprimer, alors on peut les distribuer, j'avais fait imprimer des feuilles parce que dans l'étude des proverbes que nous allons faire cet automne, chaque rencontre va se terminer par une série de questions. Alors, j'ai préparé, en lien avec cet enseignement sur les proverbes, une série de questions. Comme je pensais manquer de temps, elles ne sont pas sur une diapositive, mais on va vous les distribuer présentement, si je peux avoir des volontaires. On peut les distribuer présentement, s'il vous plaît. Alors, il y a là des questions à réflexion, et je vous encourage à poursuivre cet après-midi, ce soir ou demain, reprendre cette feuille-là et réfléchir autour des questions qui y sont formulées. Alors, je vous les lis rapidement. Alors, la première question, c'est « Est-ce que vous avez au moins un ami véritable pour qui vous vous faites du souci et qui s'en fait pour vous? » Est-ce que vous avez au moins un ami véritable? Et d'autre part, est-ce que vous êtes un ami véritable pour quelqu'un? Deuxième question, sur quelle base avez-vous choisi ou choisissez-vous vos amis? Troisième question, est-ce que vous guidez vos enfants dans le choix de leurs amis? Quatrième question, qui est la question à 100 pièces, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable d'avoir de réels amis à l'extérieur du peuple de Dieu? Autre question, avez-vous dévoilé des confidences que vous avez faites à un ami? Devriez-vous lui en demander pardon? S'il reste des feuilles, je vais les récupérer parce que je vais les distribuer à grand-mère dimanche prochain. Autre question, avez-vous négligé de critiquer un mauvais choix ou un mauvais comportement d'un ami de peur qu'il vous rejette? Comment recevez-vous les critiques d'un ami? Avec ouverture d'esprit, humilité, reconnaissance? Ou êtes-vous sur la défensive? Alors, il y a une coquille, là. Où êtes-vous sur la défensive? Et dernière question, quelle influence avez-vous sur vos amis? Quelle influence ont-ils sur vous? Est-ce qu'ils vous aident à mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté? Vous savez, le message le plus révolutionnaire que la Bible nous apporte, c'est que Dieu veut être notre ami. Et Jésus, est-ce qu'il y en a qui en manquent, qui n'ont pas eu de feuilles? Levez la main. OK. Alors, c'est complet, ça va, merci. Alors, Jésus a démontré l'authenticité de son amitié en donnant sa vie pour ses amis. C'est notre privilège ce matin Nous sommes les amis du Seigneur Jésus. Prions. Notre Dieu, on est reconnaissant, effectivement, parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous et il a ainsi témoigné de la profondeur de son amitié pour nous. On ne peut pas aller au-delà d'un tel geste pour témoigner de son amour, de son amitié. Merci, Seigneur, parce que nous t'appartenons et nous voulons réfléchir maintenant au genre d'amis que nous sommes, que nous avons. Nous te demandons de nous accompagner au cours des prochaines heures, des prochains jours, pour réfléchir à ces questions concernant l'amitié, l'enseignement du livre des Proverbes sur ce sujet. Que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous aide à réfléchir à ces questions, illumine notre pensée et nous transforme. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.